Le métier de registraire consiste à fournir un service de location et de gestion basique de noms de domaine. On peut se démarquer par l'ancienneté ou suivre soit par des valeurs revendiquées, soit par l'intégration avec des services, par exemple, d'hébergement, soit par des services associés. Bon, on va prendre par exemple l'un des plus connus internationalement. One and One est un service assez ancien, c'était l'un des tout premiers, mais décrié par son service client assez catastrophique. Gandhi a pris pour slogan No Bullshit, justement pour s'en démarquer, et revendique une certaine éthique et une facilité d'usage des services associés. OVH profite d'être le plus gros provider de services d'hébergement européen pour proposer à côté la gestion de noms de domaine, qui est forcément complémentaire. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer le patron d'une autre catégorie d'opérateurs de noms de domaine, DNS Simple, qui n'a pas de locaux d'entreprise dédiée, mais il met en avant sa présence à toute heure de la journée et des outils simplifiés pour les administrateurs systèmes et des fonctions très avancées sur la gestion de DNS. Mais plutôt que mettre en avant leur discours commercial, on s'est posé la question du business de DNS et le fait de travailler sans locaux dédiés à quelques kilomètres de Carcassonne pour le patron. Un cadre qui change des, par exemple, luxueux et cosy bureaux de Gandhi.net, mais qui, hélas, hors du superbe bar à fruits de l'accueil, ben, point de salut dans les alentours, car en bord du 13e arrondissement de Paris, le seul lieu convivial est un bar PMU à 150 mètres qui vous annonce d'entrée que votre commande doit être renouvelée tous les quarts d'heure, est tenu par des Chinois très commerciaux d'ailleurs. Bon, pareil que la team Buff Loclag se régale dans le quartier. Pour ceux d'OVH, je n'ai point d'autre avis que leurs voisins de Roubaix, car il paraît que régulièrement les salariés d'Ankama traversent le Quiévrain, histoire de se fournir en bière, comme nous, les Toulousains, allons nous fournir en clopes et alcool fort dans... Ah oui, pardon, pas de marque. Une principauté extra-communautaire, 6 dans les Pyrénées et au CCTLD en .AD. Ainsi, alors, qu'est-ce qu'un business de localiser dans la cambrousse française avec des collaborateurs répartis à travers la planète et qui bossent de chez eux? Est-ce qu'ils peuvent assurer un service professionnel de qualité et surtout international? Pour en parler, notre interviewé est Anthony Eden, qui est fondateur et dirigeant de DNSSimple.net, codeur en Erlang Ruby et Go, ex-présentateur du podcast Strong Businesses Podcast, expatrié américain en France, tiens, encore un, et compte d'opérette, ça fait tellement mieux sur sa bio Twitter. L'interview a été réalisée par moi-même, Eugène Lowe et Myriam Chave, lors de la deuxième FailCon qui a eu lieu en juin dernier, organisée par Equito. Anthony Eden, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait qu'un Américain décide d'aller s'enterrer au fin fond de Carcassonne pour monter une entreprise ?
Oh, ça c'est une question difficile. La première chose, c'est que ma femme, elle est française. Donc... Je ne suis pas comme les autres qui viennent en France juste pour vivre. Moi, j'ai une raison d'être là, c'est d'être avec elle et avec mes enfants qui sont à l'école. Mais en fait, le compagnie, ça reste aux États-Unis. On est complètement remote, donc tout le monde travaille n'importe où. Et donc, moi, je travaille ici, j'ai l'équipe en Italie, en Espagne et aux États-Unis.
Donc, avant même de travailler en France, tu travailles sur Internet?
C'est ça, oui, on est complètement sur l'Internet. Donc, c'est une compagnie totale Internet.
Tu peux nous présenter DNS Simple?
Oui, c'est un problème. Donc, la question, c'est DNS Simple, c'est un service de DNS et les noms de domaine. En fait, donc, si vous voulez acheter un nom de domaine, mycompany.fr, vous pouvez acheter chez nous. Donc, c'est ça, en fait. Et on est vraiment fait exprès pour les développeurs et les autres entrepreneurs. Donc, on a fait un site que moi, je veux bien utiliser. Donc, c'est les gens comme moi qui sont des développeurs qui aiment bien notre site.
C'est vrai que jusque-là, donc, le système de DNS, c'est le dernier point réellement centralisé sur Internet. Et ce que l'on achète, en fait, c'est plus de la confiance qu'autre chose. Et là-dessus, c'est le premier arrivé, premier servi. Maintenant, avec l'explosion de ce qu'on appelle tous les top level domaines, c'est-à-dire .travel, .city, .paris, est-ce qu'il n'y a pas une inflation qui est complètement démentielle? Ça te sert le business, mais est-ce que d'un autre côté, ce n'est pas un danger?
Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je trouve que cette explosion de nom de domaine, peut-être c'est un peu trop. On va voir comment ça sort. Nous, on ne donne qu'en demande des clients. Donc, si un client ne veut pas, nous, on ne met pas sur la liste dans notre nom de domaine qu'on supporte. Mais en fait, vraiment, c'est peut-être c'est un peu trop. Je ne suis pas sûr encore. On va voir, mais... C'est comme ça que ça marche. Ils ont décidé de sortir 1000, plus que 1000 noms de domaine TLD. Donc, c'est comme ça qu'on travaille maintenant.
Sur le mode de gestion en SWAT, il y a aussi un autre problème. C'est que certains top-level domaines demandent des papiers pour, par exemple, il faut être enregistré dans certains pays, il faut être une entreprise, il faut montrer qu'on a réellement la marque. Comment on peut encore faire simple? On se dit, on fait l'impasse. Ou bien il y a d'autres manières de faire.
Mais le plus facile, c'est de trouver, si c'est possible, un nom de domaine dans les .com, les .org, .net, .fr. Ça dépend où qu'est-ce que tu veux faire. Mais honnêtement, il faut mieux choisir un nom de domaine qui est pas une marque de les autres. Parce qu'en fait, n'importe où, quel domaine on choisit, si on utilise une marque de quelqu'un d'autre, ça va être un problème. Éventuellement, l'autre compagnie va venir, ils vont expliquer que c'est notre marque. Et en fait, ICANN, c'est l'organisation qui suivra tous les nouveaux TLD. Ils ont toujours les règles pour réparer ces problèmes, en fait. Donc, il y a un système exprès pour si quelqu'un utilise un nom de domaine qui est un trademark, ils vont surtout l'enlever, celui-là qui a acheté.
Et ce que l'on voit aussi, c'est que des fois, on voit des noms de domaines qui sont réservés. On voit des vrais parkings. Donc, en fait, des noms de domaines qui sont là et on dit « Ah, mais il est à la vente, il a 10 000, 15 000 dollars, 20 000 dollars. » C'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 90. Est-ce que, franchement, ce système-là est encore rentable? Est-ce qu'il y a encore des gogos pour acheter des noms de domaine à ce prix-là?
Non, moi, je crois que non. Déjà, Google, ils ont pénalisé tous ces sites. Et donc, honnêtement, ce n'est pas très intéressant aujourd'hui d'avoir les sites qui sont parking. Mais c'est plus intéressant d'avoir un site qui a un nom de domaine, c'est intéressant. Et après, utiliser pour construire un projet. Le projet, c'est plus important maintenant que le nom de domaine tout seul. Donc, c'est ça.
J'avais une question sur le remote working. Est-ce que vous ne souffrez pas en fait, de la distance avec vos salariés? Et comment vous faites pour garder le lien? Parce que l'humain, c'est hyper important dans une boîte. Garder le lien avec vos équipes.
La première chose qu'on fait, c'est tous les jours, on communique avec les systèmes comme Slack et les choses comme ça. C'est utile, c'est les logiciels sur Internet et toujours on a les communications avec ça. La deuxième chose qu'on fait, c'est trois fois chaque année, on a un rendez-vous avec toute l'équipe ensemble dans un endroit. Par exemple, dans le mois de décembre, on était en Madrid. Dans le mois d'avril, on était à Chicago. Et on passe une semaine ensemble pour travailler sur la stratégie et aussi pour travailler ensemble pour avoir un report avec l'autre équipe. C'est sûr, c'est difficile, mais c'est pareil, difficile dans une boîte aussi, dans un bureau. Il faut toujours avoir un esprit de travailler ensemble et de toujours parler avec les autres. C'est ça, en fait.
Quand on travaille, du coup, sur plusieurs fuseaux horaires, quel est l'avantage? Le développeur qui bosse que la nuit, qui est synchrone avec celui qui est de l'autre bout de la Terre, et donc on ne va plus essayer de recruter dans ces créneaux horaires-là?
Donc en fait, nous, on ne travaille pas comme ça. Nous, on travaille quand on veut. Et donc, on travaille seulement avec, comment on dit, asynchronous. Donc, par exemple, j'ai des équipes aux États-Unis, ils vont travailler pendant la journée, même quand on dort. Et quand nous, on arrive, on parle qu'est-ce qui se passe avec vous, qu'est-ce que vous avez fait. Et tout est asynchronous. Donc, honnêtement, ça marche très bien pour nous. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on est tous les développeurs. Donc, on a déjà l'habitude de travailler sur les projets en remote.
Alors, question télétravail. Est-ce que des fois, ça t'arrive de faire des Skype avec les clients en Marseille, un chat sur les genoux et un verre de vin sur le côté, un petit peu hors champ de la webcam?
J'ai pas trop compris les questions, mais oui, de temps en temps, j'ai un verre à côté de moi de parler avec l'équipe et les clients, et c'est comme ça. Mais Honnêtement, pour moi, ça c'est un but d'avoir une équipe complètement remote parce que moi je veux vivre, je veux vraiment vivre. Même si j'ai une entreprise, ce n'est pas une raison de passer toute ma vie avec l'entreprise. Je préfère avoir le temps que moi je veux faire des choses. Par exemple, venir ici, passer un jour à Toulouse, je peux le faire. Mais si j'ai un travail où il faut tous les jours aller au bureau, c'est vraiment difficile à faire les choses comme ça. Et ça, c'est pas vivre, hein, pour moi.
Alors du coup, question purement organisationnelle, pour que chacun avance dans le travail d'une manière commune, est-ce que vous avez choisi une méthode de travail? Est-ce que vous êtes plutôt Scrum? Est-ce que vous êtes plutôt Kanban? Ou est-ce que c'est, allez, disons pour le 17 du mois prochain?
Nous, on a vraiment la chance parce qu'on n'a pas besoin de faire les choses à une date exprès. Parce qu'on travaille pour nos clients, donc ça, c'est tous nos customers et tout ça, et on travaille pour nous-mêmes. Donc en fait, on travaille un peu comme ça. On dit qu'on a des gros projets qu'on va faire dans 3 mois. Et donc nous, on s'est organisé. Oh purée, ça c'est difficile. On le fait nous-mêmes. Donc on ne fait pas Kanban, vraiment. On ne fait pas Scrum. On travaille avec les listes choses à faire et on a des gros projets. On travaille ensemble d'arriver à ce point avec ces gros projets et de sortir pour le company, c'est tout.
Purée, c'est pas mal, mais dans la région, on dit « Oh, putain
hey. !» J'essaie de ne pas dire ça sur le radio, c'est tout. Hein.
On mettra des bips au cas où. Accessoirement, quand tu vois justement la différence de progression, par exemple, de certaines nouvelles technologies qui permettraient d'avoir encore plus d'ordinateurs associés, donc peut-être d'avoir plus de nouveaux clients, comme l'IPv6, quand on voit aussi les besoins sur le fait de chiffrer simplement les données, donc en HTTPS, est-ce que tu te dis j'ai besoin d'aider mes clients à évoluer, à avancer avec eux, ou non, je me cantonne juste à ce que je sais faire et j'essaie de bien le faire?
Non, pour nous, c'était toujours très important d'avoir l'innovation et d'aider nos clients. En fait, c'est pour ça qu'on a des clients qui restent avec nous, parce qu'ils savent très bien que nous, on travaille pour eux. On avance pour eux, donc ça c'est le but en fait. Si on arrête de faire ça, ils vont chercher ailleurs un autre provider de DNS et des noms de domaine, c'est sûr.
Et pour retenir le client, quel est le meilleur moyen? Avoir un service de qualité mais à un certain prix, ou faire comme one-on-one, c'est-à-dire rentrer à une espèce de captcha qui est impossible à rentrer pour pouvoir débloquer son domaine pour aller chez quelqu'un d'autre, au hasard Gandhi, OVH, un truc comme ça?
Non, en fait c'est très facile. Il y a un lien, ça s'appelle transfer out. Ça veut dire tu veux plus utiliser notre système. Appuie et voilà. Non, on ne bloque pas pour l'entrée, on ne bloque pas pour sortir. Parce qu'on dit, si quelqu'un veut trouver un autre provider, c'est pas que nous, c'est parce que nous, on a fait quelque chose de mal. Donc il faut qu'on. Peut-être c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de différent. On ne veut pas les bloquer. Ça, c'est pas le. Parce qu'ils vont toujours sortir. Et en plus, enfin, ils vont dire jamais je retourne à cette compagnie. Et moi, je préfère s'ils laissent toujours la porte ouverte. Si quelqu'un part, ça va. Mais peut-être qu'ils vont revenir plus tard parce que c'est une compagnie avec qui j'ai utilisé. Et eux, ils sachent que c'est important d'avoir les clients et de traiter leurs clients bien.
Donc du coup, point de vue organisation, combien il y en a qui sont dédiés à la technique et combien qui sont dédiés à l'accompagnement clientèle, donc au helpdesk dans ton entreprise?
J'ai pas trop compris.
Combien tu as de TECOS? Combien tu as de techniciens?
Ah, d'accord.
Combien tu en as sur le helpdesk?
On est tous techniciens. En fait, on est tous des programmeurs. On fait tous le helpdesk. En fait, même moi. Même toute l'équipe, on fait toujours le support les clients. Et on fait ça exprès, qu'on comprend bien les problèmes que nos clients ont. Parce que si on dit, bon, ici, on a des helpdesk et c'est leur responsabilité, on ne va pas vraiment comprendre qu'il y a un problème. Donc, pour nous, les développeurs, c'est très important de comprendre. Donc, tous les développeurs, ils font le support. Tous les développeurs, on est responsable pour les systèmes de production. Donc, en fait, tout le monde, ils ont les clés de le château. Et tout le monde peut rentrer et sortir quand il veut. Donc, c'est très important d'avoir une équipe en qui on a la confiance.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, quand même, c'est assez couillu. Peut-être, dernière question. Tu parles très bien français. Je suis surpris que tu n'aies pas fait ta conf en français pour le coup. Est-ce que maîtriser une autre langue, ça t'a fait voir d'autres problématiques vis-à-vis de ta clientèle?
Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si on a eu la chance encore d'utiliser les autres langages comme le français et l'allemand, de vraiment donner nos clients l'opportunité d'utiliser notre logiciel dans leur langage. Je veux bien, mais honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je cherche toujours les problèmes. C'est sûr qu'en France, c'est différent qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, qu'en Chine. Et on comprend bien, mais aussi on sait qu'on peut faire, avec une équipe de 7 personnes, on peut faire que qu'on peut faire avec les gens qu'on a. Donc, dès qu'on grandisse un petit peu le plus, parce que c'est le but, j'espère que je peux faire encore des autres choses, exprès pour la France, exprès pour les autres pays dans tout le monde. Parce que honnêtement, c'est pas juste qu'on fait tout en anglais, c'est presque que pour les Américains et les Anglais. Il faut mieux si on peut offrir tout en plusieurs langages. Mais vraiment, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et merci pour le compliment. Moi, je trouve que je parle pas très bien et c'est pour ça que j'ai parlé en anglais, mais ça m'a fait un peu de confiance que je peux continuer d'évoluer un petit peu.
Ouais, il est quand même pas mal.
J'avais justement une question. Tu participais au Failcon. Je voulais savoir ta réflexion par rapport à l'échec. Tu as déjà, j'imagine, dû être confronté à certains échecs. Comment tu vois ça?
Mais pour moi, j'ai jamais de problème d'avoir les échecs, en fait. Et c'est vrai que comme j'ai dit dans mon présentation, ça arrive à tout le monde. Parce que la différence, c'est comment on réagit à ces échecs, c'est ça. Et moi, j'ai décidé, avant c'était difficile parce que je n'ai pas bien compris que ce n'était pas la fin du monde. J'ai pensé, oh purée, c'est la fin du monde, c'est fini. Mais après, on réalise que ce n'est pas la fin du monde. En fait, on sort de tout, il faut avoir la patience et il faut réfléchir et reste logique. Et ça m'a aidé beaucoup. Donc, et j'ai trouvé la conférence, c'était honnêtement super. Tous les présentateurs, c'était vraiment bien fait. J'espère qu'ils vont faire encore l'année prochaine et je reviens, c'est sûr.
En sponsor?
Peut-être, on va voir. Non, j'ai pas de problème. Moi, je peux mettre le nom de Dan Simple avec Faircon sans problème. C'est juste une question d'argent.
Anthony Eden, merci beaucoup.
Bon, merci à vous. Merci.